Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Radio Foot International sur RFI, bien entendu, et pour continuer à vous tenir compagnie et à parler de football avec des Reds toujours en tête de la Première Ligue au terme d'une 24e journée toujours aussi étonnante. Elle l'aura été jusqu'au bout, cette journée de championnat d'Angleterre. Alors, les Reds ont dû se contenter cependant d'un seul point, gagné contre les Foxes. Leicester City aime entraver le chemin des grandes équipes anglaises et Jackie Bonnevé, l'adjoint de Claude Puel, eh bien, nous racontera de l'intérieur comment vit cette équipe actuellement 11e du classement. Strasbourg rejoint Guingamp en finale de la Coupe de la Ligue pour une troisième fois après l'avoir remporté les deux fois précédentes. Ce match se déroulera fin mars à Lille et nous rendrons hommage à cette équipe de Strasbourg, cinquième actuellement du championnat de France. Et puis nous évoquerons l'équipe du Qatar. Le Qatar qui jouera demain la finale de la Coupe d'Asie face au Japon. Une équipe étonnante que celle du Qatar qui s'est qualifiée en n'encaissant aucun but, en en marquant 16. Et une équipe qui aura l'honneur de participer à la Copa América, où jouera peut-être Neymar d'ailleurs. Pour évoquer ces sujets du jour, eh bien, Karine Galli est là. Elle arrive tout droit de Strasbourg. Bonsoir, bonjour Karine.
Bonjour Annie, bonjour à tous. Effectivement, l'ambiance était super à Strasbourg. J'ai même pas eu froid.
Ça réchauffe.
Oui, mais mon nez, vous savez, Olivier, est toujours un petit peu enrhumé. Franchement, c'était une belle ambiance, comme souvent.
L'ambiance de la méno. À vos côtés, Nabil Djellit. Bonjour Nabil.
Bonjour. En parlant de nez, je vous conseille un excellent livre de Nicolas Gogol qui s'appelle Le nez.
C'était la minute culture.
Mais vous nous raconterez pourquoi, j'espère au moins en
parce
dehors.
Qu'il fallait lire quand j'étais jeune et que je ne l'ai pas terminé, donc j'en suis totalement souvenu.
C'est les fameuses listes de livres obligatoires à l'école, n'est-ce pas? Philippe Doucet, là, lui, il arrive de Dakar. Bonjour Philippe.
Bah oui, chacun,
il a le temps.
Chacun son truc, chacun son truc.
Vous arrivez de Mauritanie aussi.
Aussi, oui.
Comme Habib, qui l'autre jour arrivait aussi de Mauritanie. Vous avez tous participé à une belle fête.
Oui, comme toujours, la fête très réussie des awards de la FEFRIM. Vraiment une fédération qui travaille très très bien et ça fait beaucoup de bien de voir que y a pas besoin d'avoir des moyens fantastiques pour faire des choses très très bien dans le football.
La
évidemment.
Volonté, ça compte aussi et Corentin Martins viendra nous le raconter la semaine prochaine. Olivier Pron, lui, il rentre des routes du Gabon, n'est-ce pas?
Qu'est-ce
bonjour
qu'on
Olivier.
Voyage, qu'est-ce qu'on voyage les gens de Radio Foot?
Non, nous ici, on reste à Paris.
Targa, Libreville.
C'est marrant, c'est ma destination qui fait le moins rêver quand même sur les trois. Bon.
Porte de la Chapelle, enfin chacun son goût.
Radio Foot, c'est parti.
From Ndidi, back in by Chilwell. Here's the chance, and there's the equaliser for Harry Maguire.
La 24e journée de Première Ligue avait eu dès mardi soir un grain de folie. Salim Bongali nous le racontait ici hier, notamment avec cette surprenante défaite des Citizens et le match nul des Red Devils qui retombait un peu de leur série de victoires. La suite, eh bien, hier soir a offert autant de résultats surprenants. À commencer, eh bien, par le leader Liverpool qui ne compte qu'une défaite, toujours dans son championnat et n'a pu faire mieux. Que match nul, 1-1 face à Leicester City. Mais un point, c'est toujours bon à prendre, à insister. Jürgen Klopp, l'entraîneur des Reds, qui encourageait ses hommes jusqu'à la fin pour essayer de l'emporter.
Je ne vois pas ça comme si on avait perdu des points, on prend ce qu'on a, et ce soir c'est un point. C'est plus que ce que nous avions avant le match, et c'est très bien. Est-ce que maintenant je suis plus heureux pour autant ? Non, bien sûr, parce que nous voulions gagner ce match, mais nous savions que ce serait très difficile, et puis il s'est mis à neiger, et les choses ont été plus compliquées. En fait, la neige n'était pas un problème, le problème c'est quand elle reste sur le terrain, et c'était le cas. La balle n'a pas vraiment roulé, et quand vous avez 70 à 80% de possession, ça devient vraiment dur. Then it makes
life really uncomfortable. Il fait très froid, effectivement, dans le nord de l'Angleterre. La neige, donc, peut-être pas que la neige, Philippe Doucet, je vous vois sans, soit il n'y avait pas de neige à Dakar, certes, mais c'est l'explication, selon vous, d'une équipe qui a peut-être été un peu à la peine, même si à la fin, on a bien cru qu'ils allaient réussir à marquer.
Non, mais Liverpool entre dans la période qui va être la plus difficile pour cette équipe, parce qu'il y a une attente fantastique pour ce titre, que là, il y avait une possibilité de prendre 7 points d'avance, qui aurait été quand même un gap assez important, et on sait que Liverpool, moi je pense depuis le début que Liverpool peut se crisper à un moment, c'est tellement important pour eux, c'est tellement fantastique.
Mais on se souvient la dernière fois comment ça s'était crispé,
ouais, exactement.
Si tristement, hein.
Exactement. Alors Liverpool est sans doute meilleur qu'à cette époque-là. Et là, ils ont une équipe qui effectivement peut gagner la Première Ligue, mais ils sont évidemment pas à l'abri d'une grosse série de Manchester City, de Tottenham, qui peuvent leur mettre la pression à tout moment. Et je pense que Liverpool n'est pas à l'abri. Le titre est absolument pas joué. Bon, on a parlé peut-être beaucoup trop tôt.
Nabil.
Moi, je rejoins Philippe sur son analyse, sauf que je vois pas Tottenham se mêler quand même à la course au titre. Hein, je pense que c'est un match dans le match. Surtout que Kane est blessé. Blessé, ouais. Son doit revient de la Coupe d'Asie. Ils ont moins de ressources à ce niveau-là. Et puis c'est une équipe qui ne dépense pas des sommes stratosphériques lors du mercato pour faire venir des stars et se renforcer. Effectivement, il y a un passé, un passif pour Liverpool. On le connaît. C'est une équipe qui court, qui veut briser en quelque sorte une forme de malédiction, puisque depuis 1990, je crois, si je dis pas de bêtises, ou 89, ils n'ont pas remporté le titre de champion d'Angleterre. Pour autant, c'est un club historique et énorme, puisqu'entre-temps, ils gagnent quand même des ligues des champions, sur ce quoi beaucoup de clubs aujourd'hui européens courent. Mais Liverpool, ça, ils l'ont validé et ils l'ont revalidé. Moi, je suis inquiet pour une seule chose. J'ai juste un truc qui m'inquiète pour Liverpool. Alors, effectivement, ils avaient une balle de break. Ils l'ont pas saisi, même s'ils ont quand même un petit matelas de points, et cette équipe de Manchester City ne donne pas toutes les garanties en championnat. C'est que j'ai peur qu'à la différence de Manchester City, le banc, notamment offensif, de Liverpool soit moins fourni en cas de pépin. En somme, je vous la fais direct, je croise les doigts pour eux que Firmino, Salah ou Mané ne se blessent pas, parce qu'il n'y a pas Mahrez, il n'y a pas Bernardo Silva, il n'y a pas De Bruyne sur le banc, ce qui est le cas de City.
L'année dernière on disait ça et finalement ils avaient tenu jusqu'au bout, la finale.
Et puis ils sont plus complets cette année. Il y a quand même Shaqiri qui est arrivé, il y a Sturridge qui est dans le coup. Ils ont l'effectif
Shaqiri,
plus
c'est
que l'année dernière. Karine. L'année dernière, ils étaient très justes au milieu de terrain.
Shaqiri, c'est en cas de Waka Waka. Il y a Waka ou pas.
Waka quoi.
Non, Shaqiri, oui, c'est un bon évidemment, joueur. Évidemment, il fait allusion à Shaqira.
Sauf moi.
Philippe, il a passé la nuit dans l'avion. Non, ça
Philippe, c'est la Mauritanie, là.
Vous me mettez le panini de Shaqiri et celui de Shaqira. Excusez-moi, je ne comprends pas, quoi.
Karine, Liverpool.
On sait où il est, on a compris.
Oui, mais moi, en fait, je suis quand même un petit peu plus confiante. Je pense que Philippe et Nabil, parce que je trouve que c'était l'après première défaite de Liverpool qui était en fait très important, et ça a été plutôt très bien géré. On se souvient de ce qui s'est passé. Manchester City affrontait Liverpool. Liverpool à cette époque était encore invaincu, et finalement City l'a emporté. Et derrière, ça n'a pas marqué un coup d'arrêt du côté de Liverpool. Et ça, je pense que c'était extrêmement important, parce que ça aurait pu vraiment leur mettre un coup de massue sur la tête. C'était la première défaite de la saison, c'était une défaite en plus de Manchester City, et c'était peut-être le titre qu'ils jouaient ce soir-là. Et après, on a vu que Liverpool avait continué sa route, a continué à engranger les victoires, au contraire de City, et on voit que City, finalement, c'est une équipe qui a des vraies failles. On le voit en championnat, on le voit en Ligue des Champions, et ces failles, à mes yeux, ne vont pas disparaître, parce qu'elles sont certaines. Donc je trouve que Liverpool est meilleur que l'an dernier, a su rebondir tout de suite après ce premier écueil, et en plus il n'y a quand même pas la même pression pour les joueurs, c'est-à-dire qu'à l'époque et lors de la dernière fois ils ont pu gagner le titre, c'est tout un symbole, c'est une mauvaise passe de notre ami Mamadou Sakho pour Steven Gerrard, le capitaine qui glisse et qui finalement
finalement porté toutes les attentes d'un peuple pour accéder à nouveau à ce titre de champion d'Angleterre.
Et offre
là, les joueurs de Liverpool, évidemment, qui vivent dans la ville, évidemment, qui savent que c'est très important, mais par exemple, Sadio Mané, Mohamed Salah, etc., ils portent pas le même poids que portait un Steven Gerrard. Donc moi j'y crois pour cette année.
Ouais, moi je vais faire deux partout, j'égalise avec Karine, j'y crois vraiment.
De toute façon, on n'est pas surpris.
Merci.
Non,
vous voyez venir.
Non, il nous arrive d'être en désaccord, mais là je suis assez, j'ai envie d'y croire d'abord parce que le cœur est là et qu'on est un certain nombre à avoir envie. C'est pas le cœur qui fait gagner des titres de champion, mais on aimerait bien tous que Liverpool le gagne enfin celui-là, que toutes les saisons peuvent pas comme ça se répéter. Il y a bien un moment et ce Liverpool-là me semble bien plus fort. Le fait qu'hier ils aient peut-être perdu deux points, ils en ont aussi gagné un. Hein. Et chaque point est bon à prendre dans
si
la, dans la lutte pour le titre.
Si vous êtes entraîneur de Liverpool.
Vous avez pris 12 minutes, j'en prends 30 secondes. Face à Leicester, qui est allé gagner à Chelsea, qui est allé gagner à Manchester City, c'est pas forcément deux points de perdu. C'est une équipe, on va en reparler, qui embête énormément de grosses écuries dans cette première ligue. Moi, je pense que Liverpool, c'est sans doute la bonne saison. En tout cas, ils sont armés pour.
Justement, l'équipe qui hier a empêché, on va dire, Liverpool d'engranger plus de points, c'est Leicester City. Jackie Bonnevet, bonjour.
Bonjour, Annie.
Merci d'être en direct avec nous de Londres. Alors, Jackie Bonnevet, vous êtes l'entraîneur...
De Leicester.
Pardon, excusez-moi, de Leicester. Vous êtes l'entraîneur adjoint de Claude Puel. Et hier, vous étiez donc à Liverpool, vous étiez à Anfield. Pour vous, c'est un bon résultat ramené d'Anfield pour votre équipe. Un point.
Oui, c'est un très bon résultat. Avec un petit peu plus de réussite, on aurait peut-être même en début de deuxième mi-temps marqué un deuxième but. Mais c'est vrai que ça a été compliqué. Prendre un point à Liverpool, c'est quelque part un exploit, en sachant qu'avant ce match, ils avaient fait 23 matchs, 19 victoires, seulement 3 nuls et une seule défaite contre City. Donc, prendre un point là-bas, oui, ça fait partie des choses qui sont très difficiles et c'est quelque part un exploit. Même si c'est vrai qu'on est peut-être meilleur actuellement contre les gros que contre les équipes de standing inférieur.
Pourquoi justement D'où vient ce surplus de motivation face à des gros de ce championnat d'Angleterre?
Ben ça, on aimerait bien le savoir parce que c'est vrai qu'on a gagné. On a gagné à Chelsea, on a gagné City chez nous, on a gagné juste après pendant le Boxing Day à Everton, des résultats assez exceptionnels à ce moment-là. Mais on a laissé passer des points à Wolverhampton, Fulham, Southampton chez nous. On était sur deux défaites en championnat. Donc je ne sais pas si c'est un problème de concentration par rapport aux grosses équipes, mais il est surtout très compliqué pour nous, notamment à travers nos débuts de match. On est l'équipe la plus faible dans les débuts de match. Dans les 15 premières minutes, on est, je crois, la première ou la deuxième équipe ou avec Fulham qui avait encaissé le plus grand nombre de buts à cette période. Encore hier, on encaisse un but après 2 minutes de jeu. Ça nous crée un handicap assez sérieux. Alors, on revient dans le match comme on a pu le faire à Wolverhampton. On était mené 2-0, on revient à 2-2, 3-2, 3-3. On perd à la dernière seconde du temps additionnel 4-3 à Wolverhampton. Donc, c'est des matchs difficiles, intenses, passionnés. Mais je serais tenté de dire, depuis que je suis là, j'ai pas vu de match facile pour nous, quoi.
Oui.
Que ce soit Liverpool, le top 6, ou des équipes comme Huddersfield ou d'autres qui sont en difficulté actuellement.
Oui, c'est la réputation d'ailleurs du championnat d'Angleterre, hein, toujours ces matchs si intensément disputés. Jackie Bonnevet, racontez-nous juste Anfield hier. Vous y êtes allé, vous étiez donc l'équipe accueillie. On peut voir sur la page Facebook de notre émission, grâce à vous, quelques photos d'Anfield. Racontez-nous cette ambiance à travers l'écran, on a déjà l'impression que c'est une ambiance de folie.
Bah oui, on a l'impression que c'est vraiment, alors qu'il joue Liverpool, ce qui s'est passé quand même, il faut le dire, vous l'avez souligné, c'est qu'il y avait une attente extraordinaire des fans de Liverpool, parce que City avait perdu la veille, et dans tous les journaux locaux anglais, on faisait que lire, Liverpool peut-être va prendre 7 points d'avance sur City en cas de victoire contre Leicester, un pas en avant vers le titre, ce qui n'est pas arrivé depuis pas mal de temps, donc il y avait une attente énorme à travers ce match. Et c'est vrai que Klopp l'a signalé, ce qui a été très surprenant, c'est pendant l'échauffement, il s'est mis à neiger d'une manière assez incroyable. Et c'était vraiment assez surprenant en ce qui me concerne. Et le début de match a été vraiment sur un terrain difficile avec une neige qui est restée sur le terrain et qui a pénalisé peut-être les deux équipes. Ce qui était aussi surprenant, c'est qu'en deuxième période, dans notre surface de réparation, les jardiniers avaient enlevé toute la neige, mais pas dans la surface adverse. Donc on a trouvé ça assez cocasse.
C'est Giroud, l'entraîneur de Liverpool ou...
Bah non, c'est Klopp, mais ça nous a assez surpris. En deuxième mi-temps, on a vu une surface de réparation bien dégagée, celle où on défendait, et une autre très en difficulté. Ça nous a, on a trouvé ça assez cocasse, hein, pour rien vous cacher. Et pas très élégant non plus.
Ils n'ont pas eu le temps, en fait. Ils n'ont pas eu le temps de déneiger les deux côtés. Ils ont fait un choix.
En parlant d'élégance, Jackie, c'est Olivier Prompt. Bonjour, vous vous souvenez de moi?
Olivier Prompt et l'Afrique. On s'est croisé à de nombreuses reprises en Afrique, à la Coupe d'Afrique notamment, à Johannesburg et en Afrique du Sud.
Et on se recroisera. Mais enfin bon, je vois que vous répondez plus à la dame qu'à moi. Mais Jackie, vous avez rencontré, on vient de le dire, avec Leicester, un certain nombre de prétendants au titre. On vient d'avoir un débat sur Liverpool. Est-ce que c'est l'année Liverpool? Est-ce que c'est l'année City? Vous en pensez quoi, vous, qui êtes un grand observateur? On voit comme vous vivez ça passionnément, même en dehors du fait que vous soyez l'adjointe de Claude Puel. Vous mettez tant et tant de photos, vous aimez tellement rentrer dans ces championnats. En observateur, vous voyez comment ce titre en Première Ligue?
Ben, je mettrai en favori quand même Arsenal.
Oula.
Je me suis trompé. Liverpool, pardon. Je mettrai toujours Liverpool parce qu'ils ont quand même un parcours exceptionnel. City était un petit peu moins bien, ils sont un peu moins réguliers, ils ont gagné l'année dernière en marquant plus de 100 points, ce qui est exceptionnel. Je ne sais pas s'ils auront la même fin que l'année dernière, mais il est certain que Liverpool, moi je les mets numéro 1 parce qu'ils ont quand même un effectif, même si au niveau attaque j'ai entendu qu'ils n'avaient peut-être pas un banc aussi fourni, mais ils ont quand même des joueurs de qualité. C'est souvent les mêmes qui jouent, qui reproduisent et les mêmes efforts, et c'est ce qui est impressionnant dans cette équipe de Liverpool, c'est ce pressing permanent. Et je peux vous dire que les 4 dernières minutes du temps additionnel ont été très très intenses, soutenues par un public assez incroyable. Moi je les mets favoris, même si il reste quand même 14 matchs, ce qui fait une quarantaine de points à distribuer, donc il peut se passer encore pas mal de choses.
Et en ce qui vous concerne, pour revenir à Leicester, vous êtes 11e actuellement, 9 victoires, 5 nuls, 10 défaites, c'est plutôt assez équilibré, et en quelques points, il suffit de gagner un ou deux matchs. Chez vous, vous pouvez aussi vous retrouver juste derrière le Big Four, le Big Six même, on pourrait dire, cette saison. On a remarqué aussi que vous avez du mal à domicile, sur les 10 défaites, il y en a 5 chez vous, ce qui est beaucoup. Vous semblez à l'aise contre les gros, on en a parlé, moins à l'aise lorsque vous recevez notamment les petits.
C'est exactement cela, c'est-à-dire que quand on est contre des équipes de très haut niveau, ils ont la possession, on pratique souvent en contre, et quand on reçoit des équipes, je dirais, de deuxième partie de championnat, eux, ils sont très regroupés derrière, et on a du mal à trouver des espaces, on a du mal à finaliser nos situations, nos occasions, et on est en difficulté chez nous face à ce type d'équipe. C'est vrai qu'on a eu Jimmy, qui est notre attaquant numéro 1, a été un petit peu moins réussi de ces derniers temps, et ça nous cause quelques difficultés. Jimmy Vardy, oui, ça nous cause quelques problèmes, et actuellement, c'est vrai que c'est ce qui nous a fait échapper pas mal de points à la maison, c'est cette difficulté à jouer contre des défenses et des qui joue très très bas et très très serré. À l'image du dernier match, un des derniers où on a perdu à la dernière minute contre Cardiff, on a dominé, on a eu des situations et eux sur un contre, ils nous ont marqué un but qui nous a fait perdre chez nous. Donc c'est vrai que notre objectif est de finir d'entre 6 et 10. À la 19e journée, nous étions 7e derrière le top 6, qui était vraiment très très bien. Et à travers quelques points perdus là, et puis on a un calendrier compliqué. Dimanche, on va recevoir Manchester United, et la semaine d'après, on va aller à Tottenham. Donc c'est quand même compliqué. Et alors, c'est des fois surprenant parce que c'est contre ces équipes qu'on a pris le plus de points.
Il y a 3 points, pour être précis, entre le 7e Wolverhampton et vous, 11e. Donc voilà, en une victoire, une défaite pour les uns, vous pouvez aussi revenir tout de suite à la 7e place.
Alors, Nabil Djelli. Il y a 6 points d'écart entre le 6e et le 7e, ça veut dire que le top 6 est pratiquement intouchable actuellement. Oui.
Alors, Nabil Djelli, tu as une question, Jackie.
Bonjour Jackie, une remarque et une question. La remarque, je pense que vous parliez de Jimmy Vardy, à mon avis, il y a aussi le fait que Leicester a brillé ces dernières saisons par un duo également Mahrez et Vardy. Donc j'imagine que cette relation technique, elle est difficile à remplacer puisque l'un des deux est parti et que le même si j'aime beaucoup Madison que et Gray ou d'autres, mais par exemple le petit Ghezal, il a pas non plus pour l'instant percé du côté de Leicester. Et ma question est la suivante, parce que moi je vous le dis très sincèrement, dans les coulisses où souvent on entend, je comprends pas, vous êtes bien classé, vous produisez du jeu contre certaines équipes, vous faites des résultats contre des grosses équipes. Mais c'est comment vous expliquez ces rumeurs récurrentes sur un possible limogeage entre guillemets de Claude Puel avec une défiance supposée ou inventée, j'en sais rien, ou hypothétique de cadre. C'est quelque chose qui revient et qui est récurrent.
Très désagréable, je trouve ça injuste, irrespectueux. Dès notre premier match, le premier match de la saison, nous avons joué à Manchester United. Nous avons perdu 2-1 en faisant un très bon match. Le lendemain, déjà, on annonçait Thierry Henry. Après chaque défaite, on annonce un nouvel entraîneur.
Attention alors à Jardim, quand même.
Oui, ben Jardim, on avait parlé de lui à un certain moment. C'est vrai que c'est très, très surprenant. Claude a des résultats qui me semblent plus que corrects et dans l'objectif. Et puis surtout, il a développé pas mal de jeunes joueurs de l'académie, à l'image de Chilwell, qui est international anglais maintenant, à l'image aussi de Choudhury, un milieu de terrain de l'académie qui joue, de Barnes qui joue de temps en temps. Donc c'est très très désagréable. Et je crois que Claude a été, d'après les tabloïds, chaque fois ils font des classements du premier entraîneur qui va être remercié, ben il a toujours été en tête, ce qui est d'ailleurs surprenant parce que 4 entraîneurs ont déjà été remerciés, hein, que ça soit à Fulham, à
Manchester United. Faut pas que ça le déprime alors.
Non, ben ça le déprime pas. Je crois qu'il en faut beaucoup plus pour le pour le déprimer. Il fait son bonhomme de chemin et il est dans sa ligne de conduite. Et rien ne le fait modifier son fonctionnement. Et je dois dire que, on l'a vu et vous avez pu le voir hier dans une équipe qui s'est bien comportée en produisant du jeu, en allant vers l'avant, en essayant de développer le club, les joueurs, c'est son fonctionnement. Alors c'est vrai que c'est très désagréable, très surprenant, et je trouve ça irrespectueux, mais qu'est-ce qu'on peut y faire ?
Merci beaucoup, Jackie Bonnevé, d'avoir été en direct avec nous, donc de Leicester. Je corrige bien de Leicester et bonne chance et bien à vous, à Claude Puel, de la part de Radio Foot.
Merci à vous. Salut, Jackie. Et puis bonne fin d'émission, à bientôt.
Merci, bonne continuation. Continuons un petit peu sur cette première ligue. Peut-être, Philippe, je me tourne vers vous. Sadio Mané, hier, a marqué un but. Il est il a établi un record. Premier Africain à avoir inscrit 10 buts au moins 10 buts dans les 5 derniers championnats en tant que joueur africain.
Il est
une régularité énorme.
C'est ce qu'il a acquis. C'était pas le cas dans les toutes premières années de sa carrière. Et il est, il est performant toute l'année, Sadio. Il a pas besoin d'être super en forme pour marquer des buts. Il est maintenant dans le top des attaquants mondiaux. Alors peut-être un petit peu en dessous. En tout cas, il est considéré comme étant un petit peu en dessous de Mohamed Salah, un petit peu en dessous de tel et tel autre. On parle des grands, des très grands, etc. Mais malgré tout, il est à la fois complet. Il est créatif. Il crée des différences. Il crée des buts. Et il en marque aussi.
Je trouve qu'il a
vraiment beaucoup, beaucoup d'apports dans cette équipe de Liverpool comme ailleurs.
Il est indispensable à la séquence de Liverpool sous Jurgen Klopp.
C'est un accélérateur formidable.
Je veux dire, on en a déjà discuté ici, même si c'est à une autre échelle. Mais bon, la BBC, la MSN, je sais pas, il n'y a pas de surnom pour le triumvirat de Liverpool, mais il en fait partie. Quoi. Dans 20-25 ans, si Liverpool regagne le titre cette saison, on se souviendra de Mohamed Salah, de Mané et de Firmino. Quoi. L'attraction avant, il en fait partie, quoi.
L'autre surprise hier soir, c'était l'écroulement, on va dire, de Chelsea. C'est sa deuxième défaite à Chelsea sur les 5 derniers matchs. 6 buts encaissés, surtout. 4 hier à Bournemouth et 2 l'autre jour à Arsenal. Ceci en dépit hier de l'arrivée de Gonzalo Higuaín qui était sur le terrain. Écoutons Maurizio Sarri, l'entraîneur italien de cette équipe des Blues, un peu dépité à la fin de la rencontre et qui assumait surtout sa responsabilité.
Peut-être que c'est de ma faute, peut-être que je ne suis pas capable de motiver mes joueurs, mais l'équipe est réellement très très forte. Elle est capable de gagner sans entraîneur. Il est très difficile pour moi de comprendre ce qui se passe. J'ai voulu essayer de comprendre après la rencontre. J'ai parlé avec mes joueurs juste après la rencontre. Il faut que je réessaye, parce que j'ai besoin de savoir ce qui se passe, parce que j'ai besoin de résoudre ce problème.
Maurizio Sarri, 18 matchs sans défaite jusqu'au 24 novembre dernier, toutes compétitions confondues comme on dit. C'était un début en coup de canon sous la férule de ce nouvel entraîneur hein, qui était arrivé à l'intersaison, Karine. Et puis là, ça a l'air d'aller moins bien. Pourquoi ?
Oui, alors là, évidemment, hier, il y a une défaite, et une défaite très lourde. Mais quelques jours avant, il y a quand même Chelsea qui retourne Tottenham pour se qualifier en finale. Donc, comme le disait Jackie Bonnevay, alors Sarri, c'est aussi un nouveau. Il fait pas partie du Serail et des habituels entraîneurs en Angleterre. Mais tout de suite, on nous annonce que Sarri et ses joueurs, c'est la guerre et que peut-être il finirait pas la saison. C'est un petit peu exagéré. Oui, ce qui s'est passé avec Eden Hazard a une incidence forcément parce qu'il n'a pas mis de gants, notamment auprès de son nouveau joueur. Et ça nous rappelle un petit peu ce qui s'était passé entre Mourinho et Eden Hazard. Mais moi, j'étais complètement d'accord avec les propos d'ailleurs de Sarri, même si tu peux pas le dire. Mais Eden Hazard est un joueur fabuleux, mais c'est pas le leader et le rassembleur de l'équipe. Mais
il l'a dit comme ça, effectivement.
Effectivement, il a pas mis les formes.
Il lui a même dit que s'il voulait partir, il pourrait.
Il a pas mis les formes et ça peut ne pas plaire et ça se comprend. Mais moi, j'oublie pas que en l'espace de quelques jours, il y a eu un retournement de situation face à Tottenham avec une qualification au moment des tirs au but. Donc c'est fort. Et ce qui s'est passé aussi hier est fort, mais pour moi, les joueurs n'ont pas du tout lâché Sarri. Que Eden Hazard ait les boules, oui, mais il a eu les boules pendant très longtemps avec José Mourinho. Et il essayait quand même de gagner les matchs et de faire ce qu'il fallait sur le terrain.
Bon, moi, j'ai quelques échos quand même de leur relation, parce que j'ai pris le temps de me renseigner sur ce sujet, parce qu'il m'intéresse. Évidemment, déjà cet été, Eden Hazard n'avait qu'une idée à la tête. Il en a même presque déprimé de ce qu'on m'en a dit. C'était de rejoindre le Real Madrid. Il n'y a pas d'offre qui s'est présentée. Il y a eu des choix stratégiques qui ont été faits par le Real, notamment de tabler sur Isco ou Asensio, c'était les choix de Lopetegui parce que c'est des joueurs qu'il avait en sélection nationale espagnole. Aujourd'hui, une des raisons pour laquelle Mauricio Sarri est venu du côté de Chelsea, c'est que Eden Hazard reste à Chelsea. C'était une des conditions, ou du moins un des facteurs motivants, stimulants pour le coach italien. Il en est tout simplement revenu pour une chose assez claire en fait, c'est par rapport au niveau d'exigence qu'il attend de la part d'un joueur, puisqu'il l'attend comme leader sur le terrain et en dehors du terrain. Vous savez, une fois j'ai fait une interview de Dembaba qui m'avait dit la chose suivante, et je l'ai jamais oublié, il m'avait dit Eden Hazard, quand tu le vois à l'entraînement, on dirait un joueur de CFA. Par contre, en match, c'est un joueur de Ligue des Champions. Donc c'est un peu...
Pas toujours.
Oui, enfin il choisit ses matchs. Encore qu'avec la Belgique, il s'est quand même comporté en patron et en leader. Donc il y a un froid entre les deux hommes clairement. Et une des stratégies également, et je révèle en exclusivité mondiale et internationale sur Radio Foot International, une des stratégies également pour piquer, si je peux me permettre, Eden Hazard de la part de Mauricio Sarri, qui a un peu ménagé le chou et la chèvre dans un premier temps avant de faire ses sorties et ses déclarations un petit peu tapageuses, c'était de replacer Eden Hazard en pointe. Vous savez, il a joué en pointe à la place d'Higuain et Morata. On se posait la question souvent de savoir pourquoi il le mettait pas dans sa position préférentielle, même s'il faisait le job en grande partie dans l'axe. C'était aussi pour le frustrer au niveau de son plaisir. C'est vraiment très, ça peut être parfois très, très pas mesquin, mais sadique. Il y a également cette idée-là, qui en tout cas qui est évoquée du côté de Chelsea et peut-être même dans l'entourage de Hazard, que Sarri, pour le punir sans le punir, l'a pas mis là où il prenait le plus son pied. Et d'ailleurs, dans une des interviews qui a été récemment faite par Thomas Simon dans France Football, et je terminerai là-dessus, Eden Hazard a dit « J'ai frustré tous mes entraîneurs ».
Oh, mais après, juste pour rebondir sur ce que tu
pas
dis,
trop,
cette
même.
Idée de le mettre en position de faux neuf, Conte l'avait fait aussi, et c'était parce qu'il y avait un problème d'attaquant. Et je pense que de toute façon, avec Higuain, ça ne change rien au problème majeur. Ils n'ont pas un vrai attaquant, un vrai buteur depuis que Diego Costa est parti.
Philippe, la réponse.
Ouais, bon, je laisse toutes les
hypothèses,
les choses techniques, les explications,
non,
le relationnel.
L'expertise.
L'expertise.
Je préfère ce mot.
Non, mais toutes les explications sur le jeu, etc. Mais il y a une autre chose qui me frappe avec toutes les dernières saisons de Chelsea et qui conforte des choses que j'avais entendues depuis 2015 à peu près dans ce club. Le club a beaucoup changé et il est devenu très très difficile pour les entraîneurs. Tous les entraîneurs qui passent sont malheureux. Ça se passe mal, ils ont la sensation de ne pas avoir de pouvoir.
Pourquoi ?
C'est un club qui a beaucoup grandi, beaucoup grossi, qui est remarquablement géré. Contrairement à ce qu'on dit, ils ont un milliardaire à leur tête, mais ils sont très largement équilibrés depuis des années et des années. C'est un club qui a remarquablement travaillé, mais qui a travaillé un peu contre ses entraîneurs, qui est devenu tellement fort à la base à la base en haut, juste en dessous du milliardaire, si vous voyez ce que je veux dire, et que l'entraîneur ne s'y retrouve plus, il a la sensation de pas avoir le pouvoir, de pas faire les choix,
d'être moins manager que coach, c'est ça.
Voilà, et ce qui en Angleterre choque un peu, parce qu'en Angleterre le manager a l'habitude d'avoir d'endosser vraiment une très grosse responsabilité, et je constate simplement que les entraîneurs sucent très vite, quoi. Ils ont souvent des bons débuts, et puis au bout de quelques mois, c'est de plus en plus difficile, y compris pour le professeur Sarri, qui n'a pas une expérience internationale non plus, qui connaissait pas le football anglais, qui se retrouve peut-être dans une phase, c'est un type très brillant.
Qui est un peu maladroit avec son vestiaire.
Oui, ouais, c'est un type très brillant, mais il peut être très maladroit. Raison, ouais.
Mais pour rebondir sur ce que disait Philippe, c'est vrai qu'en fait, Sarri, là, depuis quelques mois, à chaque fois, lorsqu'on lui pose des questions sur des joueurs, par exemple, David Luiz, qui est un joueur très important depuis qu'il est arrivé, alors qu'il était à la cave la saison passée, lui, il compte tout le temps sur David Luiz, il fait jouer quasiment tout le temps, mais David Luiz va arriver à être un joueur trentenaire. Et donc, Chelsea n'en veut plus, ils veulent pas le prolonger. Et donc, à chaque fois, par exemple, Sarri remettait ce dossier sur la table en disant « Je connais la politique de mes dirigeants, je suis que l'entraîneur et je ne décide pas. » Et il avait fait pareil sur Eden Hazard et en fait, il a fait la même chose sur plusieurs dossiers en expliquant que voilà, il était là et qu'il était un peu pieds et poings liés. Coincé. Il doit entraîner ce qu'on lui donne et il n'a pas de marge de manœuvre.
Il se fait moquer par ses supporters de plus en plus. On a entendu hier, enfin ces derniers temps, notamment lors d'un remplacement hier, « Tu ne sais pas ce que tu fais », l'ensemble des supporters des Blues qui chantaient ça. Il est, paraît-il, c'est resté une heure avec ses joueurs hier dans le vestiaire ou avant-hier après la défaite. Est-ce que son vestiaire le lâche ou pas? Ça, j'en sais rien, j'y suis pas. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a un vrai problème de communication et donc sans doute un problème de management.
Après, on a trouvé un peu, si on parle technico-tactique, dans le jeu en soi, Chelsea a fait un super début de saison. Ensuite, quelque part, on a trouvé le remède aux Blues, puisque tout le jeu part de Jorginho, qui est en position de sentinelle meneur de jeu, et les grosses équipes, Tottenham,
l'ont compris,
et donc ont souvent soit mis un ange gardien sur lui, ouais, soit on fait décrocher l'attaquant pour le pourrir dans sa relance. Donc même lui, tactiquement, je suis désolé Ali, N'Golo Kanté, on connaît tous ses qualités. Parfois, il se retrouve dans le système de Sarri en numéro 10, c'est-à-dire qu'il joue milieu relayeur dans un 4-3-3, et parfois, la responsabilité du jeu, c'est-à-dire de la créativité, revient à N'Golo Kanté. Il y a aussi une psychorigidité de la part de Sarri à ce niveau-là.
Et tout ça profite à qui sur ce coup-là, sur cette séquence-là, à Arsenal, qui du coup vient chipper la quatrième place à la différence de buts, enfin, parce qu'ils ont marqué plus de buts, mais c'est vrai que les deux défaites successives de Chelsea, qui semblaient à l'abri, ben, remettent et Manchester United et Arsenal dans la course à cette quatrième place. Il y aura pratiquement, on le sait, hein, c'est le seul intérêt, on connaît à peu près les trois équipes qui vont se disputer le titre, et derrière, il y a trois équipes qui vont se disputer la dernière place en Ligue des Champions. Yes.
Voilà, et cette journée de Première Ligue, eh bien, on l'avait évoqué hier, avait été sous le signe d'Emiliano Sala, qui malheureusement ne sera jamais arrivé dans ce championnat, alors qu'il aurait dû jouer sous le maillot de Cardiff. Et hier soir, il y avait un match à la Beaujoire, lors de Nantes-Saint-Etienne. Un hommage, justement, a été rendu au numéro 9 qui jouait encore donc récemment avec les Canaries. Hommage exceptionnel à la mesure du choc et de l'affection portée à Emiliano Sala. On a vu son visage souriant placé dans le rond central, à la place aussi du soleil qui figure sur le drapeau argentin qui avait été déployé là comme un tifo en tribune noire. Le nom de Sala aussi sur tous les maillots nantais. Un résumé sonore avec les témoignages de ses copains nantais Valentin Rongier, le capitaine, et son ami de camp Yacine Bamou, et les larmes de Vahid Halilhodžić.
Le match va être provisoirement arrêté, messieurs.
Voilà, monsieur Franck Schneider qui, à la 9e minute de ce nom de Saint-Etienne, arrête cette partie et chacun vivra ce moment comme il l'entend.
C'est très difficile pour nous tous, mais au moins on communie avec les supporters et en pensant à lui, donc voilà, on l'oublie pas et on lui montre ce soir, on s'est battu comme des chiens jusqu'au bout, tout à son image, c'est le minimum qu'on pouvait faire.
Je pense que c'est un bel hommage envers Emiliano. Quand le stade a acclamé son nom, là j'ai senti vraiment quelque chose au fond de mon cœur, quelque chose qui manquait. Je tenais beaucoup à lui, c'est pour ça.
J'ai eu un peu apprécie tellement ce garçon. C'est presque ça, mon fils sportif. J'ai eu une relation vraiment particulière avec lui. On a beaucoup discuté pendant 3 mois. Et dernier mot qu'il m'a dit, comment il regrette que ne peut pas plus travailler avec moi, que je regrette beaucoup son départ, comme ça. Et le lendemain, il s'est passé cette chose terrible comme ça.
L'hommage touchant de son public de la Beaujoire, alors que, eh bien, sur une plage du Cotentin, les premiers débris de l'avion dans lequel voyageait Emiliano Sala sont apparus face aux îles anglo-normandes dans la zone où a disparu cet avion. À noter aussi que le match s'est terminé entre Nantes et Saint-Etienne, eh bien, sur un score nul. C'était peut-être mieux, un score nul de 1-1.
Ce qui nous intéresse, c'est de supporter le Racing, mais c'est vrai que ce soit en CFA 2 ou en première division, ça reste un match du Racing. Donc on est toujours content de suivre le club et c'est ça qui nous intéresse surtout.
Si sur le terrain ça se passe bien, Lim sera associé à une belle saison et du coup à ce moment-là, ça sera forcément une réussite.
L'hymne du Racing Club de Strasbourg où la belle histoire continue. En tout cas, Corinne, c'est vrai que c'est un stade, quel que soit le niveau auquel évolue ce club, et on y viendra tout à l'heure, il est descendu même très très bas, eh bien le Racing Club de Strasbourg a un vrai public fidèle à la Méno.
Oui, c'est surtout ça, c'est exceptionnel. Un chiffre, ils ont joué 13 matchs à domicile cette saison, ils ont été 11 fois à guichet fermé. Donc c'est-à-dire que Strasbourg et le public strasbourgeois ne se déplacent pas juste parce qu'il y a une place à aller chercher en finale. Ils sont là et ils sont présents à tous les matchs. Et Strasbourg est une équipe qui réussit très bien devant son public. C'est pas anodin. Il y a qu'un seul match depuis le début de la saison où ils n'ont pas marqué devant leurs supporters. Les supporters les aident hier soir. On a un but qui est encaissé par Strasbourg grâce à un très grand Camara. Alors Camara là pour le coup dans les buts.
Attendu à la canne du côté de la Mauritanie.
Qu'il attende, qu'il le garde potentiellement. Enfin, il était catastrophique. Là il était catastrophique hier. Donc ils sont menés 1-0 par une faute de main et Strasbourg continue à les encourager, et puis en deuxième mi-temps, en l'espace de 15 minutes, ils renversent complètement la situation en marquant 3 buts, et Strasbourg a évidemment une équipe qui joue bien au foot, alors qu'il y a par exemple un absent comme Jonas Martin, un absent quand même de longue durée pour 2 mois qui leur manque au milieu de terrain, mais ce public les aide énormément, les joueurs à tout moment ils se retournent vers le public pour leur demander de l'aide, pour
dans un stade pourtant extrêmement vieillissant, qui n'a pas été rénové depuis, je sais pas, 20, 30, 40
ans. Ouais, mais qui a de la gueule quand même. Ouais. Non, parce que
tu
honnêtement.
Veux dire qu'il y a une arme, en fait.
Oui, et puis oui. Même, honnêtement.
Mais quand,
je veux
même,
dire,
quand même, quel dommage. Quel dommage que la ville de Strasbourg ait tourné le dos à la Coupe du Monde 98, à l'Euro 2016.
T'as la tribune de presse qui est vraiment pas pratique, ouais. Parce que si tu fais pas 20 kilos, tu ne peux pas rentrer. Il y a un espèce de système de siège qui se tire. Enfin, c'est aberrant.
Mais c'est pour ça que j'y vais jamais.
Mais quand tu le regardes comme ça, tu trouves pas qu'il fasse vétuste, en tout cas. Et puis surtout, voilà. Ça chante.
Si on fait 4 fois 20, ça passe.
Jusqu'à la fin. Non, mais vraiment. Même moi, qui, effectivement, je suis pas très épaisse, je me contorsionne pour rentrer. Donc, l'architecte est un génie, mais ça arrive souvent quand même ça dans les stades de foot. Mais honnêtement, il y a une ambiance exceptionnelle et puis ça joue. Parce que là, j'ai été scotché de Eric Bédoué, l'entraîneur de Bordeaux, enfin celui en tout cas qui vient pour les conférences de presse, qui nous a quand même pondu hein, le jeu direct de Strasbourg nous gêne. Je trouve ça extrêmement réducteur. Quand on voit les 2 derniers buts, notamment de Strasbourg, on est très loin d'un jeu réducteur. On est sur une transversale, on est sur une remise de la tête et sur des buts. Donc c'est construit, c'est bien fait et bravo à Strasbourg qui bosse bien et qui mérite cette réussite en Coupe de la Ligue et en Ligue 1.
Alors voilà, ils se sont qualifiés pour leur 3e finale de Coupe de la Ligue.
Ils ont remporté les 2 premières.
Voilà, exactement. De 1997 et 2005.
Ouais.
Il y avait
une par décennie.
Ça date, c'est en Égypte.
Une par décennie, donc 2019, voilà, on est encore dans les clous à peu près.
En tout cas, cette 25e finale, ils ne la joueront pas au Stade de France face à Guingamp, mais ils la joueront à Lille et ça sera le 30 mars. À la Méno, donc, eh bien, ils ont battu Bordeaux, vous le disiez, par 3-2. Écoutons le défenseur et international ivoirien, Lamine Koné.
C'est un grand bonheur, on l'a bien vu ce soir encore. La communion qu'il y a entre le public et les joueurs, le cri de guerre qu'on a fait à la fin, c'était du jamais vu encore. Je pense que tous les clubs vont nous copier maintenant, donc voilà, non, franchement, c'était une belle soirée ce soir. Et c'est un mois de janvier royal, incroyable. Même moi, dans ma carrière, c'est la première fois que je vis ça. On est 5e, on a une finale à jouer au mois de mars. Il y a beaucoup de bons matchs à jouer.
Beaucoup de bons matchs à jouer, donc évidemment. En tout cas, vous avez l'air de le dire, Karine, donc, et peut-être que j'imagine que Nabil ou Philippe seront d'accord, ouais, mais c'est
obligé,
ou, et Olivier, ça sera c'est à l'image d'une saison qui se passe plutôt bien. Ils sont cinquième de Ligue 1.
Une saison qui se passe hyper bien, mais qui est malheureusement parasitée ces derniers temps. Bah par c'est là où c'est triste pour eux, parce que finalement en termes de football c'est absolument exceptionnel ce que réussit à faire Thierry Loret.
Parasité par une déclaration.
Bah, vous voyez bien. Déclarations.
Est-ce qu'on parle très sincèrement, est-ce qu'on parle de la qualité du jeu de Strasbourg? Est-ce qu'on parle de Kenny Lala potentiellement en équipe de France? Est-ce qu'on parle de la révélation qu'est à York? Est-ce qu'on parle de l'explosion de
Motiba?
Oui,
de Motiba, on va en parler maintenant.
Les beaux Motiba. Voilà.
Non, mais c'est vrai. Non, mais vous voyez ce que je veux dire?
Oui, très bien. Donc, le parasitage, c'est allusion aux déclarations non seulement de l'entraîneur, mais de certains joueurs.
De la polémique avec
après
le PSG.
Le match où c'est blessé.
Bah, globalement, il y a un côté un peu pleureuse.
Neymar.
Bon, voilà. Non,
mais,
pas très original dans le
non, mais ce que fait Thierry Loret, c'est absolument remarquable. Voilà, c'est une équipe qui est montée la saison dernière, et souvent la deuxième saison est la plus difficile quand vous êtes monté, parce que la première il y a une forme de dynamique, il y a une forme d'élan, il y a un état d'esprit
de
parfois commando. Et là où il est bon, et j'en reste là, c'est qu'il a amélioré la qualité du jeu et il a fait progresser des joueurs.
Il a fait un super recrutement.
Et voilà. Et le club a fait un super recrutement. Sissoko, par exemple, au milieu de terrain. Il y a aussi des jeunes qui sont en train d'émerger. Fofana également du côté du milieu de terrain. Et puis, il y a des garçons qui sont peut-être dans la saison de leur vie. Ça, moi, j'en sais rien. Mais je pense notamment à Kenny Lala. Mais Kenny Lala, c'est Serge Aurier à Toulouse, il y a quelques saisons. Vous vous souvenez de Serge Aurier, qui avait des statistiques incroyables? Et ben, Kenny Lala, il marche sur le même rythme que l'international ivoirien.
Philippe Doucet.
Oui, j'approuve complètement. J'ajoute effectivement ce que susurrait Olivier avec sa douce voix, à savoir le recrutement était remarquable. Parce que finalement,
mais ils ont un centre de formation.
C'est
en
peut-être
plus.
Le meilleur recrutement.
Oui,
de toute
mais ils ont beaucoup recruté à l'extérieur, parce qu'il faut aller chercher quand même. Et il fallait élever le niveau de cette équipe, et notamment offensivement. Offensivement, c'était quand même l'année dernière, c'était frustre.
Il y avait Baoken,
il y avait une énergie formidable.
L'international capverdien qui est sur le banc, qui est un bon joueur aussi.
Oui, dans Da Costa, c'est pas mal.
J'aime bien ce joueur.
Mal. Bon, il y avait aussi Blayac. Bon, c'était pas le même niveau.
Voilà. Non, c'est vrai.
C'est vraiment Strasbourg a été monté, faisait jouer encore des joueurs. Il y avait encore 4-5 joueurs l'année dernière qui étaient de l'équipe de la nationale, qui avaient joué en nationale, puis en Ligue 2, puis en équipe première.
Ils n'avaient pas fait
première.
Le grand coup de balai que font certaines équipes elles changent.
Ils avaient respecté les joueurs. Ils avaient respecté les joueurs, mais pour passer un cap, et le Racing Club de Strasbourg peut pas faire que des saisons à l'énergie et finir 13e, 14e. Il y a une exigence. C'est une grande ville. Il y a un public qui est exigeant. Au début, formidable, venant de CFA2, tout est formidable. On se maintient, on est 13e, 12e, 11e, pas de problème. Et puis, à partir de la deuxième année, il fallait savoir apporter. Et c'est pas évident. C'est pas évident quand on a quand même fait une très belle saison. L'année dernière était vraiment très correcte. C'est pas évident de savoir changer, de savoir vraiment améliorer. Et je trouve que du côté du staff, du côté du président qui évidemment connaît pas mal le football, ça aide. Je trouve qu'ils ont quand même fait un recrutement de très bon niveau. Avec des ressources, évidemment, parce que c'est Strasbourg, qui sont supérieurs à des clubs habituels qui montent de Ligue 2, c'est vrai aussi.
C'est un peu le tube de la saison. C'est-à-dire que d'habitude, on parle de tube de l'été, parce qu'une équipe va cartonner pendant un mois ou deux. Annie, elle me regarde en riant, parce qu'on s'est rendu compte ce matin que quand on disait tube, les plus jeunes autour de nous comprenaient pas du tout ce dont on parlait.
Qu'est-ce qu'on dit maintenant? Donc c'est quoi le mot maintenant?
La hype.
Hype de la saison. C'est vrai, on parle souvent d'un truc temporaire. Là, on est au-delà de la mi-saison, ils sont encore cinquième. Alors, dans un championnat où il faut le rappeler, entre Saint-Etienne 4e et Rennes 10e, on a 7 équipes en 7 points. Hein. Encore une fois, ils perdent deux fois, ils vont se retrouver 11 ou 12e, ils continuent à gagner, ils vont maintenir, ils vont aller chercher.
Ils sont très réguliers,
agréables à voir jouer. Alors, il y a en plus le fait d'aller jouer à la Méno, où il y a cette ambiance qu'il y a toujours eu, mais c'est vrai qu'ils sont globalement très agréables, ils produisent quelque chose, et donc c'est plus qu'un tube de l'été.
En plus, Karine, on se souvient que l'année dernière, c'est le club de Strasbourg qui fait marquer le pas au Paris Saint-Germain l'année dernière, qui leur inflige une défaite à la Méno, mais qui fait perdre cette équipe du Paris Saint-Germain qui marchait sur l'eau.
Moi j'avais fait 3 matchs, parce qu'évidemment vous savez que les rédactions nous envoient des gros matchs. J'avais fait Paris, Marseille et Lyon, et à chaque fois les Strasbourgeois avaient gêné les 3 mastodontes. Il y avait eu la première effectivement défaite du PSG, il y avait eu un match nul arraché par Marseille dans les dernières secondes 3-3, et puis il y avait eu le renversement complètement dingue aussi face au Lyon Lyonnais, ils étaient menés finalement, ils avaient renversé Lyon, je crois qu'ils avaient gagné 3-2, donc Strasbourg est habitué à être au rendez-vous. L'an dernier, ils avaient fait des coups d'éclat aussi face au Gros. Là, cette année, il y a quand même une vraie régularité. Et puis, on parlait de la Coupe de la Ligue, et c'est quand même énorme ce qu'ils ont fait. Ils ont tapé Lille, ils ont tapé Marseille, ils ont tapé Lyon, et ils tapent Bordeaux. Non, ça, c'était pas en Coupe de la Ligue. Donc, pour aller au Stade de France, ils ont quand même sorti...
Qui sera le Stade de Lille ?
Lyon à Lyon.
Lyon à Lyon. Alors que Bruno Genesio, juste avant, avait dit « Je veux gagner une Coupe nationale, on doit se qualifier pour les demi-finales. » Donc, Strasbourg, vraiment, fait des très belles choses. Et puis après, il y a ce joueur qui est un petit peu improbable, à genre qui est très grand. Hier, il fait encore 87, un match.
Hein, c'est ça,
et il est d'une justesse. Alors, on ne sait pas ce que ça donnera par la suite. Mais là, quand on le voit...
C'est le grand attaquant qu'il aurait fallu à l'OM.
Non, mais physiquement, c'est vrai qu'on l'imagine pas forcément buteur, etc. Il joue juste. Et hier, il fait des choses qui sont extrêmement bénéfiques pour son équipe. Et il est dans la lignée de ce que fait Strasbourg depuis le début de la saison. C'est remarquable. Et il faut aussi féliciter Thierry Lauré parce que, évidemment, nous, à Paris, on retient des bouts de phrases. Mais il est entraîneur. Et il fait son métier d'entraîneur. Il l'a fait au Gazélec. Il l'a fait, évidemment, à Strasbourg. Et il fait progresser les joueurs et il fait progresser ses équipes. C'est
ce qu'on demande à un entraîneur. Lebo Motiba, le Sud-Africain, 8 buts en Ligue 1. Ça n'est pas rien.
C'est pas 9.
Et 8 sur au jour d'aujourd'hui. Ah non, il en a marqué un hier.
Est-ce qu'il a marqué un en
championnat?
C'était de la Ligue 1.
Ouais. En Ligue 1, il en est à 8.
Je pense que j'ai fait une erreur parce que pour faire venir Loïc Rémy qui ne fait rien depuis le début de la saison et laisser partir Motiba.
Ouais, mais ils avaient des besoins financiers à Lille. Hein.
Bah je pense pas que ça soit
Motiba. Les 4 millions, ils en avaient besoin.
Je pense pas que ça soit Motiba qui a renfloué les caisses d'une manière extraordinaire. Vous avez raison, ils étaient limite, ils étaient à la marge. Mais là, Strasbourg, ils vont réussir une belle plus-value parce que c'est un profit qui va aller très facilement en première ligue puisqu'en plus, il est anglophone.
Avant de terminer Radio Foot, allez, un petit détour par le Qatar. Le Qatar en finale de la Coupe d'Asie qui se déroule en ce moment. Le Qatar qui se retrouvera demain après-midi face au Japon. Alors cette finale se disputera à Abu Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis. On passera sur la situation géopolitique où le Qatar est coupé de ses voisins d'Abu Dhabi.
Battu le pays hôte 4-0 en demi-finale compte tenu des tensions entre les deux pays.
Ça les a énervés. Il y a même un recours auprès de la Confédération asiatique. Mais Nabil, j'aurais juste voulu que vous me parliez de cette équipe parce que elle a fait. Alors vous aurez quelques secondes, mais oui, elle a fait un parcours incroyable. 6 matchs, 6 victoires, 16 buts inscrits, 0 encaissé, et elle se retrouve en finale.
Mais moi, je suis pas surpris parce que le Qatar sur les dernières années, c'est une équipe qui joue beaucoup de matchs amicaux et beaucoup de matchs amicaux de haut niveau qui affrontent des équipes comme la Suisse, l'Algérie par exemple, qu'ils ont battu. C'est un collectif qui travaille.
Le
Sénégal, c'est un collectif qui travaille ensemble depuis un moment. Il y a eu avant cela un sélectionneur qui est aujourd'hui sélectionneur de l'Algérie, qui est Jamel Belmadi. Aujourd'hui, c'est un formateur espagnol qui a travaillé notamment du côté du FC Barcelone
et
de la Masia qui s'occupe de cette équipe qatari. On cherche toujours un grand nom pour la Coupe du Monde 2022. Ensuite, c'est une mosaïque également. Il y a des Qataris, mais il y a aussi des joueurs, par exemple, qui sont nés en France.
Naturalisés.
Karim Boudiaf, par exemple, qui a fait le centre de formation de Nancy. Boualem Kouki, par exemple, qui est algérien et qui est devenu qatari. Alors, c'est pas exactement la même recette. C'est pas exactement la même recette que dans le hand. Vous vous souvenez, en handball, ils avaient. Bon, là, c'était carrément.
Handball, excusez-moi.
C'est bon. Vous voulez que je vous parle du Qatar ou pas?
Allez-y, vite.
On prend 5 secondes.
Donc voilà. Et puis ensuite, c'est un championnat qui est relativement compétitif à l'échelle de l'Asie, qui est renforcé par des très bons étrangers. Et je ne suis pas surpris, mais la finale va être extrêmement intéressante.
Oui, avec le Japon qui a déjà gagné 4 fois cette compétition.
13e au classement FIFA quand même, entre Trinité et Tobago et le Bénin.
Et ils iront jouer la Copa América l'été prochain, ils vont se frotter aux grandes équipes. C'est la fin de ce Radio Foot. Merci à tous et à demain pour le Café des Sports.